bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bienvenue à l'EPI. Bonjour à vous, Église connectée aussi avec nous ce matin. On va louer le Seigneur. Vraiment une joie de servir Dieu avec vous dans la louange, dans la prière. Chanter, chanter en priant, en confessant Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Alors ça peut paraître paradoxal pour certains de chanter la joie quand il n'y a pas vraiment de joie avec ce qui peut se passer peut-être dans votre univers à vous, peut-être en France, en Europe. Par contre, il y a un texte dans la Bible qui nous donne beaucoup d'espérance, qui nous dit « La joie de l'Éternel sera notre force ». Alors on veut croire que cette joie, elle surpasse toute intelligence, et chanter cette joie avec foi, c'est aussi se permettre de recevoir les ressources de Dieu, la perception de Dieu sur les situations. Je reste convaincu que Dieu est celui qui peut changer le mal en bien, celui qui chasse les ténèbres. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et juste le prier en chantant « Jésus, tu es l'auteur de ma joie ». Et vous aussi en ligne avec nous, si vous le pouvez, au salon, peut-être vous êtes au travail, en pensée, juste le dire comme cela. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur. Tape dans les mains ensemble. c'est crier un alléluia ce matin. Hey! Comme quand on faisait le tour de Jéricho, vous savez, dans la louange précède la victoire. Allons, on y va ensemble, je m'écris.
Je m'écris alléluia en présence de mes ennemis. La peur, la honte, l'opposition. Je m'écris alléluia quand le doute m'envahit. Je m'écris alléluia.
Mon âme est une mélodie.
Mon âme est une mélodie. Je m'écris alléluia.
Du ciel, Seigneur.
Du ciel, tu combats pour ma vie.
Ensemble.
Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir naît. La mort est vaincue, le roi est vivant.
Est-ce que vous croyez que Jésus est vivant? Alors écriez-vous.
Je m'écris alléluia. Tout mon être loue ton nom. Je m'écris alléluia au milieu de l'incompréhension. Je m'écris alléluia. De la peur nous triomphons.
Parce que nous chantons le roi des rois.
Hey, je chante.
l'Éternel. Comment est-ce possible de louer l'Éternel ? Alors qu'avec quelques années au compteur, on peut réaliser que sans Dieu, on ne peut rien faire. Hein ? Sans sa grâce, nous sommes perdus. Laissez-moi vous partager une image. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du bateau. Le bateau, en général, c'est quand même un moyen de locomotion qui est sûr, même dans la tempête. Vous savez pourquoi ? Parce que ce n'est pas le fait de tanguer le problème. Évidemment, si vous avez le mal de mer, etc., ça va être compliqué. Mais en général, ce n'est pas le fait de tanguer le problème. Il faut avoir une ancre solide. Pour que le bateau, vous savez, quand vous l'amarrez au port, si vous ne mettez pas une ancre solide, si la tempête vient, le bateau va tanguer, mais il va partir. Mais Jésus, c'est l'ancre de notre foi. Et nous sommes amarrés dans sa présence. Alors on va prendre ce chant qui dit que Jésus est l'ancre de notre foi. L'œuvre de la croix est l'ancre de notre foi. Nous avons des raisons d'espérer ce matin, des raisons de proclamer. Et même si certaines paroles te semblent floues dans ce que tu vis actuellement, tu peux chanter cet espoir ce matin. J'ai cet espoir, telle une ancre pour mon âme. Dans la tempête, je m'appuie sur toi. Ça tangue peut-être ? Mais celui qui est ancré en Jésus-Christ, il traversera la tempête. Et par la grâce de Dieu, par la foi, on va le proclamer ce matin.
l'espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as acheté. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable et noble.
Ton nom est plus haut. Il est tellement plus haut que tout ce que je peux comprendre dans ce monde, Seigneur Jésus. Ta parole est certaine. Je la comprends pas toujours. J'ai mes interprétations, j'ai mon arrière-plan. Mais ta parole est certaine. Quand tu dis que tu es venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus, tu l'accomplis, Seigneur. Quand tu dis que rien n'est impossible à toi, tu l'accomplis. Quand tu dis qu'un jour tu reviendras prendre ton église, cette parole est certaine. Oui, ton nom est plus haut, Seigneur. Ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. On proclame ensemble.
Ton nom est plus grand.
Sur les paroles de Jésus qui nous a donné, dites-le ton nom, Seigneur.
Ton nom est plus haut, ton nom.
Et que ton âme crie à l'Éternel ce matin. Dis-lui, mon espoir est en toi. Pour mon foyer, ma famille, ma ville, mon quartier, ta parole.
Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi.
Seigneur Jésus, nous sommes réunis, nous sommes l'Ecclésia ce matin, une église locale, réunie en un seul lieu ce matin, pour élever un seul nom, unis par une seule foi, apprenant à marcher d'un même pas. Alors nous sommes réunis ensemble ce matin, Seigneur, dans ta présence, petits et grands, heureux de pouvoir te chanter encore et encore. Qu'à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Que nous fléchissons les genoux, c'est souvent une image pour pouvoir dire à Dieu que voilà, nous voulons venir avec humilité. Fléchir le genou, venir avec humilité, avec reconnaissance, reconnaître l'autorité, la royauté, la grandeur de Dieu.
Il est Seigneur, sa vérité règne. Se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux.
Il est Seigneur.
Il est Seigneur. Sa vérité règne là. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom.
nos pensées ce matin, au milieu de ce rendez-vous, cette rencontre, dire à notre âme, mon âme, Jésus est le Seigneur, il est au-dessus de tout. Alors merci Seigneur pour ce rassemblement, merci pour ces temps de louange, merci pour ce qu'on peut vivre autour de la parole aussi dans un instant. Mais avant de passer à cela, Seigneur, on voudrait juste te demander de bénir chaque personne dans ce lieu, dans ce bâtiment ce matin. Nous te prions pour plusieurs rendez-vous divins ce matin. Quelqu'un qui peut-être est en crise avec Jésus, qu'il puisse rencontrer Jésus. Quelqu'un qui est en crise peut-être avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, qu'il puisse te rencontrer, Seigneur, qu'il y ait un cœur à cœur entre lui et toi. Te prions pour nos papis, nos mamies ce matin, que tu renouvelles leur force comme l'aigle, Seigneur Jésus. Que tu les encourages, que tu les fortifies, qu'ils puissent continuer à dire « Tu es Seigneur, tu es exalté ». On te prie pour tous les parents dans cette pièce, Seigneur, dans cette salle. Te prie vraiment de renouveler leur force aussi, de les bénir, les époux, les épouses. Te prie pour tous les solos, on te prie aussi de remplir leur cœur de ta présence ce matin. Merci de bénir les ados, merci de bénir les enfants, merci de bénir toutes celles et ceux qui sont en nurserie ce matin, qui prennent soin des plus petits, que là aussi, on puisse vivre ce que le Seigneur il a dit. Laissez venir à moi les petits enfants, ne les en empêchez pas. Alors oui, bénis toute cette rencontre que nous vivons en église ce matin. Et à toi, une fois encore, toute la gloire. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié, Père, avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que c'est le bon moment juste pour acclamer encore le Seigneur et l'applaudir pour eux ? Vous pouvez prendre place. Bonjour à chacune et à chacun. Très heureux d'être avec vous. Vous voyez des personnes vous lever parfois le dimanche matin, que vous êtes nouveau, vous inquiétez pas, c'est pas qu'ils sont pas contents, ils vont juste avoir une rencontre spécifique pour eux, c'est cadeau. Donc voilà, vous inquiétez pas, tout va bien. Je voudrais souhaiter la bienvenue à chacune et chacun d'entre vous ce matin pour ce temps de célébration ensemble en tant qu'église. Très heureux de pouvoir louer aussi ensemble. Quelle chorale nous faisons ? Je crois qu'au ciel, on entendra une chorale universelle de tous les croyants célébrer le nom de Jésus. Ah là là, la sonorisation, elle va être incroyable, ça va être tellement bien. Comme vous le savez, il y a une semaine de cela, nous avons vécu une assemblée générale extraordinaire, un moment très très important dans la vie de notre église locale. Et pour celles et ceux qui n'ont pas pu être là, nous profitons aussi de ce moment de célébration ensemble, pour vous aussi qui êtes en ligne avec vous, pour vous donner quelques retours de cette assemblée générale. Déjà, au nom de tout le conseil d'église, on voudrait vous remercier pour la mobilisation historique que nous avons eue dans notre église, avec une représentation, une mobilisation de l'église de plus de 2/3 des membres de l'église qui étaient présents ou représentés, ce qui est vraiment top. Et vous pouvez vous applaudir parce que ça s'est jamais fait dans l'histoire de l'église d'avoir autant de gens mobilisés. Et donc c'est vraiment une bonne chose. Si vous pouvez projeter les quelques slides, comme ça on va pouvoir... Donc on reste, ce n'est plus un point d'interrogation, c'est un point d'exclamation, parce que le projet il est là, on reste. Il y avait 374 personnes présentes ou représentées, 361 bulletins dans les urnes, 339 oui, à 94%. Grande majorité des membres qui ont compris l'enjeu d'être positionné, d'avoir une maison ici sur Strasbourg, l'enjeu aussi de pouvoir rester, de pouvoir mettre aux normes, mettre en sécurité et réhabiliter ce bâtiment pour qu'il soit un lieu de vie, un lieu de formation de disciples, un lieu aussi de découverte et de contact pour le quartier, pour la ville. Donc l'EPI reste. Ok. Tu peux continuer, merci. Alors je vous rappelle simplement dans quoi on est rendu maintenant, vu qu'on a dit oui ensemble, tout a été très clair, mais je le redis aussi pour nous. Nous sommes dans une année maintenant de levée de fonds pour soutenir l'EPI, pour soutenir ce projet immobilier, que c'est plus que des travaux, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, des temps où on va pouvoir aussi avoir un lieu de ressourcement, un lieu de formation, un lieu qui peut accueillir aussi dans l'unité CNEF, Entente et plein d'autres projets aussi, avoir un impact sur le quartier. Donc nous sommes sur une année de levée de fonds. Donc peut-être pour celles et ceux qui avaient mis une pause pour voir un peu c'était quoi la vision pour les bâtiments. Maintenant vous l'avez, on va vraiment, vous avez toutes les informations d'ailleurs au fond de cette salle, vous pouvez y aller, il y a le petit livret qui vous expliquera, qui vous montrera déjà des débuts de croquis ou autre. C'est le moment. Comment réactiver peut-être pour vous qui avez attendu un petit peu pour redonner des dons, ou pour vous qui voulez maintenant donner, parce que c'est vraiment le moment. La levée de fonds, si elle est forte aujourd'hui, ça sera beaucoup plus appréciable pour nous demain. Donc si vous qui donnez déjà, peut-être vous dites « Ok, c'est le moment de la mobilisation, je vais voir ce que je peux faire à mon niveau, à moi. Je peux donner peut-être 30 en plus de ce que je donne par mois, 50, 100. » Peut-être il y a des gens aussi qui, de par leur travail ou autre, sont prêts maintenant à pouvoir faire des dons, peut-être un 1000 euros par ici, un 100 000 euros par là. Je sais pas, après Dieu pourvoit, Dieu donne, donc à vous de voir aussi, de réactiver avec nous. De toute façon, nous le CE, on est impliqués là-dedans. Déjà, on voudrait remercier les premiers donateurs. Nous avons eu cette semaine déjà des premiers donateurs, un retour de notre trésorier, des personnes qui voilà ont pu donner. Certains ont enclenché un don de 1000 euros, d'autres ont enclenché un don selon leurs possibilités qui pouvaient. Donc un grand merci à vous, c'est le moment. Donc plusieurs manières de pouvoir donner. Vous avez donc dans la salle de ressources qui sera dédiée en général pour le projet immobilier, juste au fond de cette salle, vous avez un petit prospectus avec le RIB de l'église. C'est un RIB dédié pour le bâtiment. Vous pouvez le prendre, vous allez en ligne dans votre espace client, vous rentrez l'IBAN, vous rentrez le RIB et vous donnez selon ce que vous avez reçu dans votre cœur. Vous avez aussi des QR codes pour le projet, l'évolution du projet, vous avez tout. Nous avons aussi le site internet qui a été mis à jour. Vous allez dans la rubrique « Nous soutenir ». Vous arrivez sur la manière de soutenir l'EPI, vous avez « Projet immobilier ». On reste là aussi, vous pouvez donner par Hello Asso. Donc c'est une plateforme qui nous permet, nous les associations, de pouvoir recevoir des dons. Vous pouvez donner de manière régulière ou de manière ponctuelle. On a déjà eu des dons qui ont commencé à arriver par cette plateforme. Donc encore une fois, un grand merci. On a été entendu et on prend conscience ensemble que c'est maintenant et que c'est le moment. Donc voilà, vous avez cette possibilité-là de pouvoir donner. Et vous avez aussi des troncs à la sortie, enfin dans cette salle, sur les externes de cette salle. Vous pouvez donner l'enveloppe verte, c'est dédié à l'immobilier. Donc dès que vous voyez l'enveloppe verte, c'est dédié au bâtiment, et vous avez une enveloppe marron, c'est dédié aussi pour la vie de l'église, le soutien des ministères pastoraux, le soutien des services. On a plus d'une trentaine de services qui servent auprès des 0-25 ans, des aînés ou autres, et ça permet aussi de faire vivre l'église. Je voudrais juste qu'on prenne un temps pour prier encore une fois pour ce projet, parce que je crois que sans prière, sans unité de cœur, sans la foi, on peut pas voir le Seigneur agir aussi. Alors permettez-moi de prier ensemble, après quoi je vais laisser toute la place à Michel. Il y a une semaine, Seigneur, nous avons encore une fois pris conscience de l'enjeu d'être une église implantée dans une grande ville, une eurométropole, avec tous les enjeux qui sont liés à l'éthique, aux valeurs. Et nous croyons fermement que la présence de ton église sur Strasbourg est une bénédiction pour Strasbourg. Nous croyons, Seigneur, que c'est toi, comme l'a dit la parole, qui rajoute à l'église celles et ceux qui sont sauvés. C'est toi qui finalement a fait de nous l'église que nous sommes aujourd'hui. Oui, nous avons ici et là des dons et des talents, mais si c'est pas toi qui bâtis la maison, ceux qui bâtissent sont en train de bâtir en vain. Alors nous venons vers l'architecte de l'église, vers le bâtisseur de l'église. Et nous te demandons, Seigneur, de continuer à pourvoir à tous nos besoins. Cette année, Seigneur, elle est importante, elle est cruciale pour les négociations. Toi-même, tu connais toutes choses, Seigneur Jésus. Mais nous voulons avec foi croire dans ta provision, croire que tu es le Dieu qui pourvoit. Le Dieu qui donne intelligence, sagesse. Je voudrais te prier particulièrement, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont en charge de ce projet. Tu vois combien nous avons besoin de bien nous entourer, bien être conseillés, Seigneur. C'est pourquoi là, nous croyons dans le don de sagesse, le don d'intelligence, pour prendre soin de ta maison, Seigneur. Merci toutes celles et ceux qui donnent, merci toutes celles et ceux qui vont y réfléchir, qui sont en train d'enclencher des choses. Et tu vois aussi celles et ceux qui auraient besoin, Seigneur, d'être renouvelés aussi dans leur santé financière. Nous les bénissons et nous prions pour elles, dans le nom de Jésus. La Bible nous rappelle que toi, tu es ce Dieu qui prend soin des petits oiseaux, alors d'autant plus tu prendras soin de tes enfants. Aide-nous à être une église qui n'oublie pas aussi les plus démunis. C'est pourquoi je voudrais aussi te prier pour l'association Enjeu, pour ces centaines de personnes à qui nous apportons une lueur d'espoir, avec ces colis alimentaires, avec ce vestiboutique, avec ses cours de français. Seigneur, aide-nous à être cette église qui aime son prochain. Merci pour tout ce qui va se vivre encore. Oui, nous croyons que cette année, elle va être une année de défis, mais nous pouvons aussi, avec foi, dire que Dieu va nous accompagner non pas parce que nous le méritons, mais dans sa grâce, il continue de bâtir son Église. Merci de bénir Michel maintenant. Nous prions pour lui, pour le message qu'il va nous apporter. Que cela vienne nourrir notre foi, nous challenger dans la foi, pour être des disciples à ton image, à toi, Seigneur. Merci de bénir aussi tous nos amis en ligne ce matin. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse, Michel, que Dieu te bénisse.
Je voudrais vous remercier de tout cœur d'avoir dit oui au projet. Ce sont des années de démarche et de prière qui trouvent enfin leur aboutissement. Et je suis régulièrement interrogé en me demandant « qu'est-ce que tu penses du projet ?» Bien, moi j'ai voté oui parce que je sais tout le travail qu'il y a en amont et je suis heureux que ce projet trouve enfin son aboutissement. Donc un grand, grand, grand merci pour votre réponse favorable à ce projet. Avec mon épouse, nous sommes engagés depuis des années aussi et nous donnons à notre niveau ce que nous pouvons pour participer au financement de ce projet. Donc merci beaucoup Mathieu, merci à toute l'équipe qui a géré formidablement bien jusqu'à présent et le plus dur est à venir maintenant. Et donc restons mobilisés dans les dons, restons mobilisés aussi dans la prière. La sagesse populaire voudrait qu'on ne parle ni de religion, ni de politique. Je vais faire les deux. La raison pour laquelle on cherche à éviter le sujet de la politique, c'est parce que ça amène de la discorde. Alors ce matin, je ne suis pas là pour diviser. La nation est déjà bien divisée sur un certain nombre de sujets. Mais je voudrais apporter un éclairage chrétien, une perspective biblique par rapport à la politique, en vous donnant quelques clés pour pouvoir vous aider à réfléchir, à prier, peut-être aussi à agir. Dans son discours de l'Assemblée plénière, la semaine qui vient de s'écouler, notre président Erwan Kloarek, président du CNEF, disait ceci. Alors que nous travaillons aujourd'hui sur le sujet de l'engagement des évangéliques dans la société, il serait difficile de passer sous silence les secousses politiques qui ébranlent notre pays. Et en effet, nous voulons aborder les vrais sujets, parler, comme on dit au Canada, des vraies affaires, essayer de comprendre où le Seigneur veut nous emmener. Et de faire remarquer que les tensions qui risquent de s'inviter les tensions qui sont à l'heure actuelle dans la société risquent de s'inviter au sein de la communauté. Vous avez comme moi entendu parfois ces réflexions. On a dit que Jésus était le premier communiste. On l'a entendu ça hein, dans les conversations qui ont trait à la politique. Mais Jésus a toujours refusé de faire de la politique. Et il n'a pas encouragé ses disciples à s'y engager. Il n'a jamais fait de confusion entre la politique et l'œuvre de Dieu à laquelle il a associé ses disciples. Lorsque la foule a voté pour lui pour le faire roi, il s'est retiré. Il n'a pas répondu aux attentes politiques du peuple parce que ce n'était pas sa mission. Matthieu 22, verset 21 dira: « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Alors, l'Église n'est pas un parti politique. Et puis, elle n'a pas à dicter des règles, ni même à s'imposer. L'Église, et comme on l'a si merveilleusement chanté ce matin, ne place pas sa confiance dans le pouvoir civil, mais dans le Dieu qui est souverain, qui a envoyé Jésus-Christ pour nous faire connaître son amour, et c'est cela notre espérance. Lorsque Jésus est devant les autorités romaines, dans Jean 18, 36, Pilate va lui poser la question « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus dira « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Alors, il faut remettre la politique à sa juste place. C'est mon propos ce matin. La politique est temporelle. elle passera. Elle est une réalité humaine. Le royaume de Dieu est spirituel. Il est éternel. Et c'est une réalité divine. Alors, ce qui est intéressant, lorsque je me suis préparé pour ce message, ce qui est intéressant, j'ai observé la diversité dans le choix des disciples. Dans Marc 3, qui donne la liste des disciples, vous avez, par exemple, Jacques et Jean. Jésus les a surnommés, savez-vous comment ? Les fils du tonnerre. Leur objectif, c'était d'éliminer les Samaritains. On est en pleine actualité. Il y avait Simon le Zélote. Les Zélotes étaient un parti nationaliste radical engagé dans la lutte pour l'indépendance du peuple face aux Romains. Vous aviez Judas Iscariote. Quelques experts se sont penchés sur son passé, sur ses origines, et ils nous disent que Judas aurait appartenu à un mouvement activiste. On les appelait les sicaires. Les sicaires, c'est des gens qui avaient une espèce de poignard à double tranchant, et ils assassinaient les Romains. Il y avait Matthieu, collecteur d'impôts. C'est le collabo de service. Eh oui. Mettez-vous dans la réalité de ce contexte-là. Il était collaborateur du pouvoir politique qui avait été établi par Rome. Donc, dans le groupe des 12, voyez l'image, hein, dans le groupe des 12 se trouvaient des gens absolument différents les uns des autres. Chacun avait ses opinions, mais Jésus les a réunis, non pas sur la base de leurs opinions, mais les a réunis pour une mission, une même mission, annoncer la bonne nouvelle de Jésus, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et c'est à cela que l'Église est appelée, annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, ce qui montre au fond que il est possible de vivre ensemble malgré les opinions différentes. Nous avons toutes les tendances au milieu de nous. Je vous connais, nous avons toutes les tendances. Mais ce qui est beau ce matin, ce ne sont pas ces tendances, ce ne sont pas ces courants politiques qui nous rassemblent, mais c'est Jésus qui nous rassemble, qui nous unit et qui est une ancre pour notre âme. Alors, il est possible de vivre ensemble sans nous juger les uns les autres, en nous respectant les uns les autres dans nos choix. Martin Luther, dans son traité de la liberté du chrétien, lorsqu'il parle de ces choses, on est en 1520, dira « L'homme chrétien est l'homme le plus libre de tous. » Et j'aimerais ce matin vous libérer. Vous libérer dans ce que vous croyez, ce que vous pensez, ce dont vous êtes convaincu, vous libérer. L'homme chrétien est l'homme le plus libre de tous. Il n'est assujetti à personne. En revanche, l'homme chrétien est le plus serviable de tous. Il est au service de chacun. C'est ce que nous disait Matthieu tout à l'heure, avec notre association en jeu. On est présent dans la société et on prend part et on fait du bien à ceux qui passent par les moments difficiles. Un chrétien, c'est un bon citoyen. Alors, en tant que chrétien, justement, nous avons une double citoyenneté. Nous sommes citoyens du ciel. L'apôtre Paul dira à Philippiens 3, verset 20, « Notre cité est dans les cieux ». C'est une citoyenneté permanente et éternelle. Mais en même temps, nous sommes citoyens du monde pour une durée limitée, car nous ne sommes que de passage sur la terre. L'apôtre Paul écrira aux Philippiens, Philippiens 1, verset 1, où il dit « À tous les saints en Jésus-Christ, tous les chrétiens en Jésus-Christ qui sont à Philippe, chrétiens en Christ, c'est notre appartenance au royaume de Dieu et la communauté des Philippiens, chrétiens et philippiens. Comme on pourrait dire aujourd'hui, nous sommes chrétiens et strasbourgeois ou chrétiens et la commune à laquelle vous appartenez. Une double nationalité. Le mot politique vient du grec polis, qui veut dire cité. Et le citoyen, en grec, c'est le politès, qui a donné politique. Donc la politique concerne les citoyens et ce qui a rapport aux affaires publiques, aux affaires de la cité. Dans Romains 13, l'apôtre Paul dira que les autorités qui nous gouvernent ont été établies par Dieu et que nous avons à nous y soumettre et à payer nos impôts. Alors, quel regard, en tant que chrétien, porter sur notre environnement politique? Quelle posture adopter vis-à-vis des échéances électorales? Avons-nous une part de responsabilité dans le devenir de notre nation? Faut-il s'engager ou faut-il rester à l'écart de toute forme d'engagement? Alors on va lire un texte à partir de Jérémie 29. Je voudrais vous proposer quatre postures. Premièrement, être responsable. Deuxièmement, être en prière. Troisièmement, être en réflexion. Puis quatrièmement, être dans l'espérance. Lisons Jérémie 29, les premiers versets. Voici le contenu de la lettre que le prophète Jérémie envoya de Jérusalem au reste des anciens en exil, aux prêtres, aux prophètes et à tout le peuple, à ceux que Nebuchadnezzar, dans certaines versions c'est Nabucodonosor, avait emmené en exil de Jérusalem à Babylone. Au verset 4, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons, habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous, ayez des fils et des filles, donnez des femmes en mariage à vos fils et des maris à vos filles pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Et on s'arrête là pour l'instant dans notre lecture. Un mot sur le contenu de ce passage. Cette lettre est écrite en 597 avant Jésus-Christ. Quelques années auparavant, en 603, une partie de la population avait été déportée à Babylone, et entre autres, Daniel et ses trois amis, Shadrach, Meshach et Abednego. Dieu les avait prévenus, si vous n'écoutez pas, vous allez subir la déportation. Ils n'ont pas écouté et ils sont partis en déportation. Daniel et ses trois amis, à qui Nebuchadnezzar avait confié l'administration et la gouvernance de toute la province de Babylone. Daniel était engagé dans la politique parce qu'il en avait les compétences, il avait la sagesse et puis c'était son appel. Il était chef suprême de tous les sages, de tous les conseillers du roi. Alors Jérémie envoie cette lettre pour les encourager et leur donner des instructions. Alors que leur dit-il? Vous allez rester un moment, 70 ans. Construisez des maisons, habitez-les, plantez les jardins, mangez-en les fruits, mariez-vous, fondez des familles. Autrement dit, intégrez-vous, impliquez-vous dans la communauté où vous êtes déporté. Donc le premier point, soyons responsables. Soyez responsables, leur dit-il, conduisez-vous en gens responsables au sein de cette nouvelle communauté. Il se trouvait dans un environnement qui était hostile, au milieu d'une population qui ne partageait ni leurs valeurs, ni leur foi dans le Dieu d'Israël. Nous sommes, nous aussi, aujourd'hui, en 2024, environnés d'une société qui est sécularisée, qui s'est écartée de la foi chrétienne. Quand Jésus parle à ses disciples dans Jean 17, il leur dira, la prière par rapport à ses disciples, il dira, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Et il dit au verset 18 de Jean 17, tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés dans le monde. Et ça peut nous aider à comprendre quelle est notre posture et quelle est notre place dans le monde. Au fond, Jésus veut que nous vivions notre foi dans le monde. Dans un autre passage, Jésus dira « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ». Et on peut se poser la question « Mais pourquoi ?» Mais parce qu'il veut que certains loups deviennent des brebis. C'est pour ça qu'il nous envoie chez les loups. J'attends un petit peu parce que comme ça, ça descend. Comme c'est un sujet qui est très délicat, il faut juste marquer ici ou là une petite pause. Jésus dit aussi, vous êtes le sel de la terre. Ce passage est beaucoup plus connu. Vous êtes la lumière du monde. Donc la terre, le monde, on a donc des responsabilités sur cette terre. Le sel donne de la saveur, mais il est aussi destiné à la préservation des aliments. Prendre notre place dans la société pour donner envie de devenir chrétien. Donner envie de connaître Jésus. Et puis la préservation, c'est pour éviter que la société ne dérape complètement. Parce qu'il faut quand même le dire, quand vous traversez certains villages, vous remarquez que les panneaux sont à l'envers pour signifier qu'on marche sur la tête. On marche sur la tête. Jésus dira que votre lumière brille devant les hommes. Devant la société. Alors l'Église n'a pas pour mission de changer la société, mais de servir le Seigneur et de conduire les autres à la foi en Christ. Alors au cours de l'histoire de l'Église, certains chrétiens se sont carrément retirés du monde. Au IVe siècle, par exemple, un certain Simon Stylite. C'était un chrétien syrien qui s'est retiré de la foule. Il a passé, figurez-vous, 37 années de sa vie sur une colonne de pierre à 15 mètres de haut sur une petite surface qui faisait à peine un mètre carré. 37 ans de sa vie. Son idée, c'était de se retirer du monde et de se faire souffrir en pensant qu'en se faisant souffrir de la sorte, il puisse devenir davantage saint. Mais mes amis, nous n'avons pas besoin de saints sur des colonnes, mais nous avons besoin de saints dans les bureaux, dans les ateliers, dans les entreprises, dans les écoles, dans les supermarchés, dans les administrations, partout, dans tous les lieux de vie. Vous êtes le sel de la terre pour donner de la saveur et pour quelque part freiner une avancée du mal qui pourrait nuire à toute la société. Jésus n'a pas fait de politique, mais il s'est intéressé à tous les problèmes, à ce qui préoccupait les gens. Souvent, nous lisons de lui qu'il était ému de compassion. Ému de compassion. Et nous voulons le prendre comme exemple et comme modèle. Il était proche des gens. C'est un homme de terrain. Et s'il a guéri des malades et accompli des miracles, il est venu avant tout pour pardonner les péchés et réconcilier les hommes et les femmes avec Dieu. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que celui qui croit en lui ait un plus grand pouvoir d'achat. Non, qu'il ait la vie éternelle. Voyez ? Donc, ne perdons pas de vue notre place et notre mission dans ce monde. Alors maintenant, être responsable, c'est aussi donner son avis. Contrairement à Nebuchadnezzar, qui exerçait le pouvoir absolu, une monarchie, nous vivons dans une démocratie, c'est-à-dire que le pouvoir est donné au peuple, par le peuple et pour le peuple. Et nous avons la possibilité de nous exprimer, d'exprimer notre choix, pour ceux qui sont français, par notre vote. Soyons des citoyens responsables. Soyons de bons citoyens en tant que chrétiens. Deuxièmement, donc soyons responsables, soyons en prière. Jérémie 29 au verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai exilé et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre bien est lié au sien. » Autrement dit, Jérémie est en train d'encourager le peuple en leur disant « Ne vous révoltez pas, ne vous plaignez pas, priez !» Prions pour la paix de notre ville, prions pour la paix des quartiers, prions pour la paix des communes dans lesquelles nous sommes les uns les autres. Prions pour notre pays. Prions. Prions pour les prochaines élections. Alors me direz-vous, mais que faut-il demander ? Voilà moi ce que je prie. Je prie pour que Dieu ait pitié de la France. Que Dieu ait pitié. Que Dieu ait pitié de notre pays. Qu'il nous accorde encore une chance. Qu'il nous accorde de pouvoir vivre un réveil spirituel. Erwan Cloarec, le président du CNEF, comme beaucoup d'autres, comme moi-même, nous pensons que nous sommes à l'aube d'un réveil spirituel, une période de pré-réveil. Et Erwan Cloarec écrit ceci, « Ne nous lamentons pas, ne nous replions pas, ne nous divisons pas, l'heure est à la mission de Dieu, à la prière qui nous engage. » 1 Timothée 2, verset 1, nous dit, c'est l'apôtre Paul qui écrit, j'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Nous prions parce que nous croyons que Dieu agit en réponse à la prière. Nous prions parce que Dieu nous le demande. Nous prions parce que la prière est efficace. Elle fait une différence. Nous prions avant de déposer notre bulletin dans l'urne. Prions. Proverbe 21, verset 1. Le cœur du roi est un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'oriente comme il le désire. Dieu est au contrôle, on l'a chanté tout à l'heure et on l'a proclamé. Dieu est au contrôle. Le cœur du maire est entre les mains du Seigneur. Et on va se le rappeler quand on aura à faire nos démarches pour notre projet immobilier. Le cœur du président est entre les mains du Seigneur. Le cœur des candidats aux élections est entre les mains du Seigneur. Et Dieu a le pouvoir d'influencer les leaders de ce monde. Soyons responsables, soyons en prière. Troisièmement, soyons réfléchis. Soyons attentifs aux messages diffusés par les uns et par les autres. Et la question c'est, à qui est-ce que je prête mon oreille ? Jérémie 29, verset 8. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, ceux qui vivent parmi vous, ni par vos devins, et ne faites pas attention aux rêves que vous faites. En effet, ce sont des mensonges qu'ils nous prophétisent, comme si cela venait de moi. Je ne les ai pas envoyés, déclare l'Éternel. Alors parmi le peuple, des voix s'étaient élevées à ce moment-là pour annoncer leur propre message et qui était bien sûr en opposition avec le message envoyé par Jérémie. Les prophètes disaient « Pas de souci, ne vous inquiétez pas, on sera bientôt rentrés, c'est une affaire de quelques semaines, tout va bien, pas de panique. » Jérémie dit « Non, 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 vous allez rester 70 ans. » Et à chaque élection, on entend des discours. Certains sont positifs, d'autres pessimistes, négatifs, quels que soient les courants. Chacun dira des choses justes et vraies, mais également des choses fausses. Alors, c'est vrai que ce n'est pas évident de savoir pour qui voter. Surtout lorsque, comme c'était le cas la semaine dernière, vous avez 38 listes en concurrence. Que faire ? Réfléchir. Informons-nous. Prenons connaissance du programme des candidats. Tâchons de suivre l'un ou l'autre débat. Posons-nous la question, quelle est la valeur ? Quelles sont les valeurs de tel ou tel candidat ? Quel est son projet ? Quelle est son intention ? Où est-ce qu'il veut ou où est-ce qu'elle veut nous emmener ? Alors nous cherchons tous un candidat qui nous représente. Mais ça n'existe pas. Vous le savez, ça n'existe pas. Un candidat qui incarne parfaitement toutes les valeurs chrétiennes. Alors que faire ? Bien, votons pour quelqu'un dont les valeurs se rapprochent le plus possible des valeurs chrétiennes. Votons pour quelqu'un qui ne s'opposera pas aux chrétiens, pour quelqu'un qui nous permettra de vivre notre foi paisiblement. Soyons responsables, soyons en prière, soyons réfléchis, et puis soyons dans l'espérance. Notre espérance, je l'ai dit tout à l'heure, ne se trouve pas dans un parti politique. Il existe un courant théologique qu'on appelle le dominionnisme. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, le dominionnisme. C'est un courant très ancien, mais qui a fortement augmenté au cours des années 1980, en Amérique, au Canada, en Europe. C'est un mouvement qui cherche à contrôler le gouvernement à travers l'action politique. L'objectif étant que la nation soit gouvernée par des chrétiens. En fait, ce qu'ils voudraient instaurer, c'est une espèce de théocratie. C'est absolument utopique. La politique est une réalité et le royaume de Dieu en est une autre. Et voilà ce que dira Jérémie au chapitre 29, toujours verset 10. En revanche, voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur, j'accomplirai ce que je vous ai promis en vous ramenant ici. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'appellerez et vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Installez-vous, intégrez-vous, participez à la communauté. Vous allez rester 10 ans, mais vous retournerez. Est-ce que je peux appeler l'équipe de louanges à revenir sur l'estrade ? Au verset 10, j'interviendrai en votre faveur. Vous savez ce que ça signifie ? Ça signifie que ce n'est pas Nebuchadnezzar qui contrôle les événements, mais là où j'aimerais amener l'Église, c'est surtout à penser, à croire et à vivre le fait que c'est Dieu qui est au contrôle. Nebuchadnezzar est sur son trône sur la terre, mais Dieu est sur son trône dans le ciel. Connaissez ce passage qui nous dit, psaume 115 au verset 3, « Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Il est absolument souverain. La politique est une nécessité pour la vie d'une nation. Il faut des règles, il faut des lois, il faut un cadre, il faut une structure pour organiser la vie de la société. Mais elle n'est pas la réponse à l'âme de la nation. C'est Jésus la réponse de l'âme de la nation. C'est lui le sauveur du monde. Notre espérance, c'est l'attente de ce jour où, selon Apocalypse chapitre 11, le royaume du monde sera remis à notre Seigneur et à son Messie. Et il règnera au siècle des siècles. Lorsque j'étais adolescent, j'étais à l'école du dimanche, à l'âge de 12 ans. J'ai appris ce chant que vous connaissez peut-être, « Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. » Le psaume 20 nous rappelle « Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Nous, nous célébrons l'Éternel, notre Dieu. » Alors ce n'est pas fuir nos responsabilités. Parce que quelquefois on a dit des chrétiens qu'ils vivaient dans l'espérance, mais que c'était une forme de fuite. Non. Nous prenons nos responsabilités. Nous avons les pieds sur terre. Nous comprenons les enjeux d'une société qui est loin de Dieu. Et nous souffrons. Cela nous attriste. Mais nous vivons notre foi dans l'espérance qu'il est sur son trône, qu'il règne et que les choses arriveront telles qu'il les a prévues. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Et les périodes de chaos, de crise ont été les périodes les plus propices à l'annonce de l'Évangile. Les périodes de persécution, et l'Église persécutée vous le dira, ont été les périodes les plus fructueuses pour la croissance de l'Église. Ne désespérons pas, ne paniquons pas, mais soyons responsables, soyons dans la prière, soyons réfléchis et soyons dans l'espérance. Amen. On prie ensemble. Seigneur, nous te remercions parce que tu es notre ancre de l'âme. Tu es notre secours et notre sécurité. Et face au vent qui se déchaîne, face au chaos, face aux divisions qui règnent tout autour de nous dans ce monde, nous voulons être témoins de ton amour et de ton espérance. Fais-nous grâce, Seigneur, d'être de bons citoyens. Fais-nous la grâce d'être investis, d'être impliqués. Et là où nous pouvons faire du bien, aide-nous, comme toi-même, tu allais de lieu en lieu faisant le bien. Nous voulons être cette Église rayonnante qui reflète l'amour et la vie de Jésus. En étant responsables, nous voulons prier pour notre société, prier pour notre monde, prier pour la France. Aie pitié, Seigneur, aie pitié de la France. Nous voulons réfléchir. Aide-nous, Seigneur, être dans une réflexion saine, équilibrée. Et aide-nous, Seigneur, aussi à vivre concrètement, pratiquement, cette espérance vivante que tu as placée dans nos cœurs. Amen. Et tous ceux qui sont d'accord avec moi, amen.
Réponse de ce message, est-ce qu'on peut se lever et proclamer ce chant qui dit « Maintenant Seigneur, souffle sur ce pays Seigneur, envahis nos villages dans le champ, dans le sens de la réflexion, de l'engagement, de l'échange. » Cette œuvre qu'il a
l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous, l'histoire de notre pays aussi. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ.
Tu es celui.
Tu es celui qui a inspiré cette œuvre. L'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Oh. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles,
même les familles politiques, viens les toucher.
Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom des nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, tomber la toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations. Le nom de Jésus.
J'ai beaucoup entendu de vidéos, beaucoup écouté. Et de la part du monde chrétien, il y a un appel que j'ai pas entendu. Alors on va oser, avec le message que tu nous as apporté, Michel, le faire. Pendant que tu prêchais, Michel, j'avais cette vision du royaume de Dieu. En fait, la force de Dieu, c'est qu'on peut avoir des sensibilités différentes et se rejoindre sur la mission commune qui est le salut des âmes. Je sais, ça a l'air bizarre quand on est dans une société qui veut nous cantonner, qui veut nous cerner, nous cadrer, nous évacuer les uns vis-à-vis des autres. Puis j'ai pas entendu cet appel à la prière. Alors, je vais prendre mes responsabilités. Et j'aimerais, vous qui avez voté, en suivant certaines sensibilités qui sont les vôtres, que vous puissiez faire, vous, ce chant de proclamation sur toutes les personnes pour qui vous avez voté. Afin que dans ces listes, afin que ces personnes rencontrent le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comme Michel l'a dit, le piège, c'est juste d'oublier notre mission. On ne trouvera jamais un messie politique. On a déjà trouvé notre messie, en fait. Alors on peut faire cette prière audacieuse, courageuse de foi. Vous savez comment vous vous positionnez aujourd'hui politiquement, vous savez comment vous positionnez. On va vivre un temps d'intercession pour les gens pour qui vous avez voté, pour les gens qui représentent certaines des idées que vous portez. Non pas juste pour qu'ils conquièrent le pays, mais pour que le royaume de Dieu conquère le pays de leur cœur. Priez pour vos dirigeants, dit la Bible. Priez pour vos dirigeants. Et pas que l'Église. Alors on va juste un instant se recueillir et vous savez, vous avez les images en tête, vous avez le bulletin que vous avez mis. Derrière, il y a des vies, il y a des foyers. Alors on peut intercéder maintenant pour que le royaume de Dieu vienne toucher toutes ces personnes. Et ce qui est beau avec l'Église, c'est qu'on va toucher toutes les sensibilités ce matin. C'est-à-dire que tout le monde va être arrosé par l'Évangile ce matin. Tout le monde politique va être arrosé par l'Évangile ce matin. Seigneur, nous te demandons ce matin de venir chercher et sauver celles et ceux qui sont perdus. Seigneur, tu connais pour qui j'ai voté. Et j'avais perdu de vue aussi, Seigneur, que l'enjeu, c'est le salut des âmes. L'Évangile qui vient toucher des vies. Et ces vies, alors, changent l'atmosphère. Seigneur, nous savons de quoi est fait l'homme, parce que nous le sommes. L'être humain, nous savons qui il est. Les choses bonnes, les choses mauvaises, Seigneur. Et te prions, Seigneur, parce que nous ne voulons pas être juste idéalistes, nous ne voulons pas être naïfs. Nous savons qu'il y a des enjeux, tout n'est pas noir ou blanc, Seigneur. C'est bien ça le problème. Toi, tu es le seul qui détermine avec franchise, voilà la lumière, voilà la vérité. Tu es le seul qui se positionne parfaitement, intègre, de manière intègre, droite. Il n'y a en toi ni ombre ni variation, il n'y a en toi ni ombre ni ténèbres. Tu es parfait, Seigneur. Aide-nous à nous aligner sur notre mission, là où tu nous as placés, avec les sensibilités qui sont les nôtres ce matin. Que nous soyons des ambassadeurs du Christ, là où tu nous as envoyés. Seigneur, aide-nous, Seigneur, aide-nous à avoir la sagesse d'en haut, Seigneur. Oui, fais tomber la pluie, Seigneur, sur toutes ces personnes. Certaines, Seigneur, parlent de toi dans les médias, mais ne sont pas en relation avec toi. Nous te prions pour des relations avec toi. Certains sont anti-toi, nous te prions qu'ils soient bouleversés par le Christ ressuscité, par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous te prions que tu te révèles comme le Messie sauveur de notre nation. Te demandons de continuer ton œuvre là, Seigneur, où tu places mes frères et mes sœurs, dans les engagements qui sont les leurs. Nous ne voulons pas tomber dans ce piège-là ce matin. Nous voulons croire que tu mets ta lumière là où il y a des ténèbres, là où il y a des besoins. Alors nous te demandons, Seigneur, de faire tomber ta pluie. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie du ciel. Du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie. Ouvre les écoles. simplement pour finir ces moments, là on a besoin de maturité spirituelle, de discernement. On est rendu dans des temps prophétiques pour notre pays où on ne peut pas être réfléchi, on ne peut pas creuser. Et ça vient de challenger chacun d'entre nous. Une chose est sûre, Jésus l'a dit, une famille divisée contre elle-même ne peut subsister. Et nous n'ignorons pas qu'avec l'enjeu de la nation, il y a l'enjeu aussi du royaume de Dieu et du fait que le royaume de Dieu soit uni ou divisé. C'est pourquoi, permettez-moi de finir ce temps de célébration avec une prière d'unité, une prière de sagesse. L'église que nous voyons, c'est une église où on peut débattre, où on peut échanger, parler, et toujours être attrapé par le Saint-Esprit quand il nous dit « Attention, tu ne respectes plus la dignité de ton frère ou de ta sœur. » Je sais que ça a l'air naïf comme ça, mais ayant été dans différents milieux, le débat est possible. Parfois, il faut beaucoup de sagesse, et parfois, il faut encore plus de beaucoup de sagesse. Alors Seigneur, je voudrais te demander de nous accompagner pendant toute cette période qui s'offre à nous. Tu nous appelles à plonger nos regards dans ce qui est proposé, de mettre un filtre, de mettre un collier à nos yeux, un filtre aussi à nos oreilles pour vraiment nous conduire pour nous positionner vers qui on veut voter. Et en même temps, Seigneur, je veux te prier pour l'Église. Je veux croire que c'est le modèle par excellence du vivre ensemble dans notre pays. On n'est pas parfait, on a encore tellement à apprendre dans ce domaine. Mais je te demande, Seigneur, de nous accompagner, que le Saint-Esprit vienne toujours mettre les drapeaux rouges, les red flags qu'il faut, juste pour qu'on puisse souvenir que notre mission première, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors il y a une marche, Seigneur, pour nous de nous consolider. Il y a une diversité, il y a une force dans la diversité, Seigneur. Je te prie de rendre ça concret, de nous aider, Seigneur, à prier et encore prier. Et dès qu'on aura fini de prier, aide-nous encore à prier. Et dès qu'on aura encore prié plus, aide-nous encore à prier. Je te prie vraiment, Seigneur, pour que les dons spirituels nous accompagnent dans cette période importante pour le pays. Et au-delà de tout ça, Seigneur, qu'on se souvienne toujours que nous servons le même Dieu, le roi, le Seigneur, le président du cosmos et de l'au-delà, le roi des rois. Amen. Pour celles et ceux qui voudraient prolonger ces moments en écoute et en prière, il y a toute une équipe qui se tiendra à ma gauche, à votre droite, dans l'allée qui est juste ici. Donc on vous demandera, comme d'habitude, de bien vouloir quitter le plus rapidement possible l'allée. Ils seront identifiables, les personnes qui prieront pour vous avec un badge. Vous pourrez échanger, partager votre sujet de prière. On va continuer à rester en prière, continuer à prier pendant les semaines qui arrivent. Et que Dieu vous bénisse dans ce process des 2 semaines avant le premier tour. Bon retour à chacun, que Dieu vous bénisse.